Bonjour à tout le monde. Alors, je vais faire une présentation qui n'est pas un travail ni empirique ni théorique, mais plutôt une espèce d'analyse de différents projets de création mobile qui me semble intéressant de mentionner aujourd'hui, avec l'idée de traiter de ce que j'ai appelé circulation ou mobile circulation, donc l'idée que des activités que l'on a dans la vie quotidienne ont été finalement détournés, ont servi de base de création pour créer différentes applications mobiles qui sont assez pertinentes. Et pour montrer ça, en fait, je vais à chaque fois vous montrer quelle a été la source d'inspiration et puis ensuite comment les designers ou les artistes en question ont utilisé ces technologies. Mais avant de parler de ça, je voudrais revenir sur un point qui est assez intéressant. Quand aujourd'hui on parle de mobile ou de technologie ubiquitaire, hein, toutes ces technologies basées sur des capteurs, hein, et du numérique qui part sur écran, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, un auteur américain qui s'appelle Mark Weiser, qui avait écrit cet article assez prospectif dans une revue scientifique américaine, il décrivait en gros l'informatique du futur, hein, comme une informatique qui se dissoudrait dans l'environnement, on aurait plus des ordinateurs hein, sous la forme de grosses boîtes, mais plutôt des capteurs, de la mémoire qui seraient dans les murs, les objets du quotidien, la table, la chaise. Et de manière assez symptomatique, hein, les chercheurs dans ce domaine de l'informatique, qui s'appelle Ubiquitous Computing, informatique ubiquitaire, ont essayé de développer ces choses-là. Et puis, il y a environ 4-5 ans, différents chercheurs dans ce domaine se sont rendus compte qu'en parallèle, il y avait d'autres technologies qui avaient été développées, notamment le téléphone mobile, qui donnait lieu à toutes sortes de détournements, d'applications intéressantes, et qui étaient en gros the computer for the 21st century, mais sauf que ce n'était pas ce qui était prévu dans l'article. Et la présentation que je vais vous faire, avec l'idée hein, le téléphone mobile utilisé par exemple par ses enfants au Japon, est finalement cette espèce de cheminement parallèle de ce que peut être l'informatique telle qu'elle était pensée à l'époque, mais qui a été réappropriée, détournée d'une manière un petit peu différente. Et ces logiques de détournement, elles ont eu lieu à plusieurs reprises liées au mobile, avec particulièrement un point qui va être au cœur de la présentation, qui est les technologies de géolocalisation. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque autour de 1995-1996, quand, sous l'administration Clinton, aux États-Unis, le spectre hein, de GPS a été libéralisé, ce qui a permis d'utiliser pour des usages non militaires les technologies de géolocalisation. Alors, pour développer des applications assez banales, hein, d'abord, qui étaient des systèmes d'aide à la navigation automobile, mais quelques années après, maintenant ça remonte à une dizaine d'années, il y a tout un courant d'artistes qui s'est fondé autour de ces technologies, autour du terme creative media, en français on pourrait traduire par média géolocalisé, et qui ont essayé de reprendre le GPS ou les technologies de positionnement spatial hein, qui pourraient utiliser le téléphone mobile et la localisation du téléphone mobile par rapport à différentes antennes dans l'environnement pour créer des choses qui seraient un petit peu différentes d'applications commerciales. Alors ça a commencé par ces cartes comme vous avez ici. Hein, la première chose que se sont amusés à faire ces collectifs, ça a été de cartographier leur l'espace en se baladant avec un GPS et un téléphone mobile et générer des cartes, mais toutes d'autres applications sur lesquelles je vais revenir après qui essayent de pousser cette logique hein, de création au-delà des stéréotypes de services mobiles et géolocalisés qu'on retrouve dans la sphère marchande, hein, qui sont souvent la publicité lié à un espace particulier, vous passez à côté d'un Starbucks et vous recevez une pub pour Starbucks, ou des messages géolocalisés, vous envoyez un message, un SMS à quelqu'un, sauf que pour le recevoir, il doit être uniquement dans un lieu particulier. Ça, c'est des sortes de stéréotypes qu'on retrouve souvent dans la logique d'application géolocalisée, et des collectifs d'artistes, de designers, ont essayé d'aller plus loin que ces scénarios un petit peu tristes, avec une logique de production, de nouveaux médias qui sont parfois assez singuliers et intéressants. Alors, un des premiers exemples, et je vous montre à chaque fois deux images, hein, l'image de gauche, ce sera l'inspiration finalement d'une activité qui existe déjà, et puis de montrer comment ces collectifs d'artistes, de designers s'en sont inspirés pour détourner la géolocalisation vers ce type de point de départ. Alors là, par exemple, c'était un forum assez classique comme on trouve sur Internet, où les gens écrivent un texte, qui répondent les uns après les autres. Et un collectif anglais qui s'appelle Promo Suisse, en 2003-2004, avait sorti finalement l'équivalent, un projet qui s'appelle Urban Tapestry, dans lequel, sur son téléphone mobile, on peut laisser des messages dans des lieux spécifiques de la ville, hein, c'était à Londres, et puis y répondre avec une logique spatiale. Donc vous avez une carte qui apparaît sur le téléphone mobile, et puis chaque point, c'est un message qui est déposé par un utilisateur, et le trait indique le lien avec l'endroit où il y a la réponse. Et ça donne cette espèce de urban tapestry, donc une tapisserie urbaine qui montrerait ce que serait qu'un forum cartographié sous une forme cartographique. Alors, dans une logique plutôt tournée vers la production de médias, je ne sais pas si vous avez déjà joué à avec ce genre de livre, mais livre dont vous êtes le héros, ou Choose Your Own Adventure en anglais. Donc, vous avez des paragraphes, et puis suivant les décisions que vous voulez faire, on vous renvoie à d'autres pages du livre. Et naturellement, les gens qui s'intéressent à la géolocalisation sont souvent appropriés ce genre de choses pour créer des sortes d'aventures géolocalisées dans lesquelles vous baladez sur une carte que vous voyez sur votre téléphone mobile et suivant les endroits où vous êtes, les différentes interactions qui sont proposées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que au-delà de la production d'applications de ce genre, il y a aussi des plateformes comme Seven Scenes ou Scavenger, qui est une application américaine qui est un peu similaire, dans laquelle il y a une application auteur en fait. Ça, c'est ce que la personne qui veut créer le scénario, j'utilise le mot scénario, mais c'est peut-être pas le bon terme, plutôt le game design en fait, la scénarisation ludique de l'application, une carte, et puis on peut déposer sur la carte à différents points des interactions, donc soit un film, soit une question, un quiz, soit une action à réaliser, et puis suivant ce qui est analysé, il y a quelque chose d'autre qui apparaît et puis il faut aller à un autre endroit. Alors, de la même manière, tout ce qui est, en gros, enfin, en anglais, il y a le terme de caching qui est assez marrant, ça vient du français, hein, le jeu de cache-cache, de cacher des objets. Donc, il y a tous ces jeux de géocaching dans lesquels on cache un objet à un endroit et qu'il s'agit de retrouver. Ça, j'avais vu ça à Genève, hein, c'est un jeu de géocaching fait par des scouts qui planquaient des choses ici, il fallait le trouver, il fallait des informations pour aller à un autre endroit. Ça a servi à différentes personnes, dont ça c'est un projet que j'avais fait il y a 8 ans, de jeu géolocalisé sur lequel il s'agit de trouver des objets qui n'existent pas en fait, qui sont purement virtuels, dans un espace urbain, il faut se balader pour pouvoir trouver l'objet, puis ensuite continuer sa quête. De la même manière que ces activités de géocaching qui consistent à trouver des objets qui existent vraiment, géolocalisés sous la forme de petites boîtes, a servi d'inspiration pour les concepteurs de jeux. Alors là, c'est pas du mobile, mais c'est quand j'utilise le terme mobile, je mets aussi dedans les consoles portables, je prends pas juste le téléphone mobile. Un studio qui travaillait pour Nintendo avait fait ce jeu qui s'appelle Treasure Troves, dans lequel c'est pas exactement la géolocalisation, il s'agit pas de se géolocaliser en tant que coordonnées absolues X et Y, et puis il y a une information qui vous arrive en fonction de ces coordonnées, mais c'est plutôt suivant les antennes Wi-Fi qui sont présentes dans l'environnement, il y en a beaucoup maintenant, les antennes Wi-Fi, le jeu, vous baladez avec votre console, et le jeu va générer des monstres ou des objets qui sont générés automatiquement par un algorithme à partir de l'identifiant de l'antenne Wi-Fi. Donc il y a une espèce de détournement de l'idée de caching, d'objets cachés, plutôt pour détourner finalement les antennes qui sont présentes dans l'environnement, même si le système ne connaît pas l'identité de l'antenne, comme elles ont quand même un identifiant avec un certain nombre de chiffres, l'algorithme va générer un objet virtuel qui sera présent dans le jeu. De la même manière, le book crossing, ça, je ne sais pas comment dire en anglais, mais c'est près de chez moi à Genève. C'est une petite boîte dans laquelle on peut laisser des livres, et puis les gens qui passent à côté peuvent récupérer le livre ou en poser un autre. C'est une espèce de forme de partage. C'est qui existe depuis longtemps, hein, bien avant le numérique, et qui a servi à des gens dans le design numérique d'imaginer des applications un peu similaires, dans lesquelles il y a une forme d'échange plus ou moins consciente entre les utilisateurs du système. Si on prend la console de Nintendo, la 3DS, il y a un système similaire dans lequel vous avez un jeu qui s'appelle Street Pass Puzzle, dans lequel vous devez compléter un puzzle, donc avec des pièces. Et puis, pour obtenir ces pièces, quand vous passez à côté de quelqu'un, les consoles, à votre insu, vont communiquer entre elles, et puis récupérer les pièces d'autres personnes. Donc, ça veut dire que si vous voulez réussir, il va falloir croiser beaucoup de monde et vous balader pas mal dans le jeu. La logique ludique est plus intéressante que dans la réalité. Moi, j'ai jamais réussi à le finir, mais je ne sais pas si d'autres personnes dans la salle ont réussi. Alors, dans ces logiques d'utiliser les techniques géolocalisées pour faire circuler des principes, des activités qui existaient déjà dans notre activité quotidienne sans technologie, il y a d'autres exemples, il y a la lecture que j'aime beaucoup, et notamment le fait que dans une certaine catégorie de livres, il est difficile de lire le roman sans avoir une carte. Si vous prenez Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux de Tolkien, hein, la carte qui est au début du livre, hein, a une importance assez forte pour comprendre l'action et puis aussi avoir une forme d'immersion dans l'histoire. Et ça a amené des designers comme une agence anglaise qui s'appelle Six to Start à faire différentes applications soit sur iPad, soit sur iPhone. Comme We Tell Stories, c'est une sorte de forme de lecture dans laquelle les briques de contenu sont posées sur une carte, un type Google Maps, et donc votre progression dans la narration s'accompagne d'un cheminement dans une représentation d'espace physique, hein, sous la forme de la carte. C'est un projet qui a été édité par Penguin Books, hein, donc c'est pas juste une petite expérimentation, et ça permet d'explorer des nouvelles formes narratives sur l'espèce de correspondance qu'il y a entre la carte et puis les fragments de texte. Alors, l'étape suivante, et qui se nourrit aussi d'une manière de lire qui existait déjà, hein, le fait d'aller lire Jean-Claude Izzo à Marseille, de lire des livres qui ont été écrits, qui sont pensés dans un lieu, dans le lieu en question, c'est une pratique qui a toujours existé, hein, qui fait partie de ces manières de s'approprier les contenus culturels de la part de l'auteur, fait que les créateurs s'intéressent à ce genre de logique également. Hein. Wanderlust, c'est une application iPhone qui permet de lire un livre à différents endroits, et suivant l'endroit où vous êtes, l'histoire va être un petit peu modifiée, le nom des personnages, le nom des lieux, et puis des formes narratives peuvent émerger justement ce cheminement différent dans l'espace, et tout ça c'est permis par la géolocalisation, parce que le téléphone détecte la géolocalisation et va donc proposer des contenus et même des formes narratives différentes. Alors de la lecture, on passe à la musique, hein, qui est une autre forme culturelle intéressante. Moi j'aime bien regarder des vieilles publicités des années 50, 60, voire avant. Et puis je ne sais pas si vous avez connu ce genre de choses, mais à une époque, des sociétés comme Grandin ou Philips, qui sortaient de la musique, je ne sais pas s'ils appellent ça musique portable ou transportable, c'est quand même assez volumineux, avait trouvé en fait un usage intéressant pour ces, à imaginer un usage intéressant pour ces espèces de gros électrophones portables, qui était le sound hunting, la chasse au son. Donc là on voit un père de famille qui enregistre des DVD, puis il y avait des collectifs de sound hunters qui allaient se balader dans les bois, enregistrer des oiseaux, puis collectionner. Ça existe encore, hein. Je crois que Roland, il y a encore des groupes, il y a Philips qui font ça. Et naturellement, ça c'est une forme assez intéressante qu'on a un petit peu oubliée, mais qui a amené des designers anglais comme ceux qui ont fait cette application, Chubby, qui est une sorte de lecteur de musique réactif. C'est-à-dire que ça va, suivant votre déplacement dans l'espace, la vitesse de votre pas, les bruits qu'il y a autour, va adapter la musique à laquelle vous écoutez. Et naturellement, l'étape suivante, que je trouvais assez intéressante, c'est quand votre Walkman, votre application, vous demande de faire des choses. Ça, c'est une des... L'application demandait conseillait à un moment, il y a du marteau-piqueur, parce que ça allait pouvoir générer des sons que le micro de mon qu'on a eu faute d'aller récupérer et créer une forme musicale, évidemment un peu expérimentale, qui serait intéressante. Ça, c'est un autre exemple de jeu géolocalisé qui a été développé par Antonin Fourneau, qui a un projet assez intéressant d'utiliser la géolocalisation pour faire un jeu dans lequel il y a très peu d'images, mais on se balade et puis on doit capturer des sons qui sont présents dans l'espace. Et ça, cette espèce de mariage, hein, de création d'un espace hybride entre ce qu'on entend, ce qu'on voit dans l'espace physique, notre activité amène une expérience qui est ludique, mais assez curieuse et que je trouve assez innovante, hein, qui sort un petit peu de l'écran et qui permet d'avoir un mariage physique, numérique assez curieux. Et puis dans le domaine du cinéma ou de la production d'images animées, un autre détournement intéressant de la géolocalisation, c'est le fait que de plus en plus les images animées ont des métadonnées avec des coordonnées géographiques, hein, X et Y. Certaines caméras permettent de voir ces métadonnées. Et du coup, c'est possible d'en faire quelque chose. Ça, c'est un projet d'un ami à moi, à Genève, qui s'appelle Ulrich Fischer. Son projet s'appelle Walking Daily. Donc, c'est un projet dans lequel on se balade avec son iPhone, qui a des fonctions de géolocalisation. Et suivant les déplacements que l'on fait dans la ville, on va monter un film qui sera composé de différents fragments qui auront été géolocalisés à différents endroits de la ville. Donc ça s'appelle Walking Daily parce qu'on marche son film, on marche le montage sans en être nécessairement conscient. On ne voit pas le film en temps réel, mais c'est en faisant des déplacements qu'un film va être composé ensuite. Alors on peut imaginer utiliser des archives d'époque, pour autant qu'elle soit géolocalisée, et donc se balader dans une rue de Paris, et puis revoir un film qui, dans les séquences, viendrait des contenus associés à ces rues qu'on a visitées. Donc là, je vous ai montré comment différentes activités qui sont présentes, enfin, assez courantes, hein, ont servi de source d'inspiration, ont circulé finalement pour venir nourrir une démarche de création sur le mobile. Pour moi, j'aimerais revenir sur l'axe inverse, en fait. Comment des activités qui ont lieu sur le mobile ou des créations, des formes de création sur le mobile se retrouvent maintenant dans l'espace physique. C'est des choses qui sont théorisées par un designer anglais qui s'appelle James Rydell, qui parle de new aesthetic. Alors, je mets ça entre guillemets parce que le terme est un peu fort, à la fois sur le mot new et le mot esthétique. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que les algorithmes, qu'ils soient sur mobile, sur le web, produisent des représentations, des formes de contenu, que ce soit qu'ils soient sonores, visuels, images animées, et que ça crée une espèce de nouvelle esthétique. Alors, un exemple qui est assez étrange, je trouve, c'est un jeu qui s'appelle Draw Something, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent de Pictionary sur téléphone mobile. Jeu assez addictif, hein, vous dessinez voilà, ce genre de choses, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre et puis il va devoir deviner le mot. Et avec une esthétique très très basique. Et ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a des gens qui commencent à s'imprimer leur partie de Joe Something et puis à les mettre comme t'as Joe chez eux. Donc il y a là une espèce de circulation qui passe de l'écran du téléphone jusqu'à un objet un petit peu plus classique en fait, en termes de l'objet lui-même, mais pas forcément en termes de ce qu'il représente. Et puis, un autre grand classique, hein, alors là, on provient justement des algorithmes qui produisent des formes particulières et qui sont pensés pour ces mêmes algorithmes, hein, comme il a été décrit dans la présentation précédente. Et les QR codes, hein, qui sont pensés pour être lus par des téléphones, pour amener des contenus, aujourd'hui, on les retrouve de partout. Hein, ça, c'est le catalogue de la redoute de cette année, avec cette couette avec un énorme QR code dessus. C'est ridicule, évidemment, mais ça devient une espèce de motif qui dépasse complètement la logique du mobile. Ça devient une espèce de motif, soit de mode, soit une espèce de culture partagée, qu'on retrouve aussi dans l'architecture. Hein, ça, c'est un projet de ces conteneurs, hein, qui sont empilés et qui forment, vu dessus, un QR code. Et puis, vous avez, enfin, j'ai montré deux exemples, mais il y en a plein d'autres comme ça qui vous montrent comment un objet comme le QR code qui a été pensé pour le mobile, pour être lu par mon téléphone mobile, bah, est sorti complètement de cette logique-là et se retrouve présent de manière assez généralisée. Et puis pour terminer, alors ça c'est moins une forme culturelle qu'un appel à la réalité, au physique. Je sais pas que je voulais vous montrer mes vacances en Sicile, mais quand je me balade, j'aime bien découvrir différentes choses. Et ça c'est typiquement un objet qui est pensé pour le mobile. C'est une antenne hein, de téléphone mobile. Et qui fait partie de ces espèces d'effets de bord hein, au niveau d'infrastructure qui évidemment donne lieu à une espèce d'esthétique particulière. Si on se rapproche, on voit que c'est pas un art, hein, c'est vraiment un faux art. Il y a des sociétés qui ont tout un business sur ce genre de choses. Et je trouvais intéressant de vous montrer ça pour vous montrer comment il y a cette espèce de circulation entre ces éléments qui sont numériques ou qui soutiennent le numérique comme les antennes de téléphone mobile, et puis qu'on retrouve après comme espèce de forme de création. Alors évidemment, c'est pas la création dans un sens très très noble, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, puis assez nouveau. Donc voilà, ce que je disais, l'espèce de fil conducteur, c'était de vous montrer cette espèce de circulation du numérique au physique qui sont basées sur des logiques de détournement, de se réapproprier certaines activités qui avaient lieu dans notre activité quotidienne sans numérique et qui sont ensuite transférées sur des applications mobiles, en ligne, sur des consoles de jeux. Et puis ces formes de détournement, elles sont aussi des réappropriations technologiques de objets techniques comme le GPS, comme le mobile, qui n'ont pas du tout été pensés pour ce genre de choses et qui donnent lieu à des formes de création assez innovantes et qui mènent à cette espèce d'hybridation du numérique et du physique vers lequel on tend. Et je vous remercie.